Bonjour à toutes et à tous, on est encore toujours dans la joie de vous retrouver tous les jours à 14h pour cette troisième saison des Nouvelles Vagues. On entendra quelques nouveautés, mais le projet reste celui d'inviter au micro le plus de nouvelles voix possibles pour penser, pour décrire, pour être dans le monde d'aujourd'hui. La mécanique reste la même, c'est un thème par semaine, une approche pluridisciplinaire, ça bouge donc tous les jours. Les Nouvelles Vagues, c'est le magazine de société de France Culture et pour cette première série d'émissions, la société, c'est notre thème. Une longue tradition de lutte se cache derrière le concept d'intersectionnalité. Une longue tradition de dialogue également, entre les militantes de différentes organisations, relayées par des débats avec les universitaires et des débats entre universitaires. C'est important de ne pas effacer l'histoire militante qui a permis à ce terme d'émerger. C'est en vertu de notre expérience et pas tant par le biais d'une recherche académique que nous avons été amenés à trouver un moyen de penser ensemble tous ces enjeux. Ces enjeux traversaient nos corps comme ils traversent nos luttes. Une lutte sans trêve, c'est le titre du livre qui, aux éditions de La Fabrique, rassemble quelques récentes prises de parole d'Angela Davis et un entretien dont le précédent passage est extrait. Vous écoutez France Culture, sans trêve, il est 14h, passé de 2 minutes, bienvenue à tous dans les Nouvelles Vagues. Et au rang des nouveautés, notre rubrique de 14h50 s'appelle désormais « 5 fois ». Un invité fil rouge propose tout au long de la semaine 5 récits très subjectifs en lien avec le thème que par ailleurs nous traitons. Jusqu'à vendredi, Écoué du groupe de rap La Rumeur évoque 5 faits ou phénomènes de société. Et aujourd'hui, il parle du vivre ensemble et d'autres notions, termes qui selon lui deviennent des slogans répondant aux mêmes logiques publicitaires que les autres. Il parle aussi d'un vivre ensemble qu'il a connu. Alors, riche voisinage vers 14h50. Deuxième moment d'une semaine en forme de manifeste, si la société, ce qui la traverse, la crispe, l'anime ou la structure est notre objet, notre projet de toute l'année, nous en avons fait précisément le thème de cette première série d'émissions. Hier, nous regardions du côté de la ZAD à Notre-Dame-des-Landes et de la lutte Notav en Italie pour observer les expérimentations d'un deux en deux d'or dans la société contemporaine qui tâche d'inventer des formes de vie inédites. Aujourd'hui, nous nous posons la question de l'aller-retour entre la société, ce grand ensemble difficile à définir, et les sciences qui l'observent, la critique, l'analyse. Quelle corrélation entre des recherches sur certains sujets et des changements possibles touchant à ces sujets? Quels outils produisent la recherche? Les recherches qui peuvent ensuite être mobilisées dans des luttes ou dans la vie de tous les jours par les citoyens. Comment penser cette porosité, ces enjeux? Penser aussi la place des intellectuels et des chercheurs dans les débats de société. Alors deux chercheurs parmi eux avec nous cet après-midi. Mélène Cervera, vous faites partie de l'APEX qui réunit des chercheurs, des jeunes chercheurs, des formateurs, des actions dans différents domaines. Peut-être on y reviendra. En tout cas, ils sont tous engagés dans des recherches appliquées en sciences sociales. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
Et Juliette Rennes, vous êtes maître de conférence à l'EHESS, notamment vous travaillez beaucoup sur les questions de genre et apparaître bientôt un ouvrage que vous avez, dont vous avez dirigé l'édition, c'est l'Encyclopédie critique du genre, ce sera aux éditions de La Découverte. Bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour.
La sortie est prévue pour le 27 octobre.
On s'est habitué à écouter des savants dans les sciences dites dures. Les physiciens, les chimistes, les astronomes, tous ces gens-là, on les écoute. Il y a des émissions scientifiques, on trouve ça normal d'expliquer toutes les choses du monde. Bon. Quand ça porte sur le monde social, alors déjà on a affaire à des sciences qui sont beaucoup plus récentes, c'est la fin du 19e, début du 20e siècle, et là, en matière de société, je dirais que tout le monde a l'impression de savoir exactement ce qui se passe. On a tous l'impression de comprendre ce qui se passe, on a une idée. Bon, je pense qu'on ne comprend pas véritablement ce qu'on fait. Je crois qu'il y a un déficit de pédagogie d'une certaine façon. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pour dire, je vais essayer d'expliquer. Moi, je me suis mis à la place d'un élève de terminale ou de licence première année, vous voyez, en me disant, je veux qu'il puisse comprendre ce qu'on est en train de faire, nous. sociologue, politiste, anthropologue, etc. Bon, je suis sociologue, mais j'ai une conception très large de ce que sont les sciences sociales. On fait à peu près tous le même métier. Et je pense que c'est lié au fait qu'on enseigne très tardivement ces disciplines. Ça n'arrive qu'au lycée, et encore assez mal. Et que du coup, les gens n'ont pas d'apprentissage précoce de ce que c'est que le monde social.
Bernard Larry qui parle d'un défaut de pédagogie au micro de Laurence Leray dans l'émission Parenthèse sur France Inter. C'est une émission qui date de janvier 2016. C'est donc un contexte un petit peu particulier pour parler des sciences sociales et des sciences humaines. Il évoque plusieurs raisons au statut un peu particulier de ces sciences sociales et sciences humaines. Mais d'une part, est-ce que, pour commencer, vous partagez ce constat d'un défaut de pédagogie, d'une méconnaissance de ces sciences-là et du coup peut-être des raisons qui expliqueraient leur place singulière dans la société ? Mélène Servera.
En effet, je pense que par rapport à ce qu'on pouvait dire en début d'émission hors antenne, que assez tardivement sont enseignées la sociologie comme science sociale, par exemple, ou encore l'économie politique comme science sociale, et de nombreuses associations ont pu réagir, notamment dans le champ du secondaire. Hein, les enseignants de SES ont pu réagir à des réformes récentes de l'enseignement de sciences économiques et sociales au lycée, au détriment de la sociologie, hein, qui ne devient que optionnelle, et d'autres mouvements dans le supérieur ont pu réagir aussi à ce fait qu'on enseigne tardivement les sciences sociales. Mais je pense que ce que nous dit aussi Lahire, c'est que en chacun de nous, finalement, il y a un apprenti chercheur en sciences sociales, et je pense qu'il y a des domaines de recherche ou de recherche en lutte qui se sont intéressés à la place justement du profane dans la production de connaissances en sciences sociales, et notamment je pense à la lutte contre le sida dont on reparlera peut-être.
Parce que vous partageriez comme lui l'idée selon laquelle en matière de société tout le monde a l'impression de comprendre ce qui se passe, Juliette Rennes ?
Oui, c'est ce qui explique aussi qu'il y a beaucoup plus de controverses en sciences sociales qui traversent le reste des espaces
qu'en
sociaux.
En chimie ou comme associé.
Que ce soit sur justement la théorie du genre, l'homoparentalité, la procréation médicalement assistée, la féminisation des noms de métiers, etc. Et l'immigration ou encore le port du foulard dans des espaces publics, qui sont des controverses qui traversent à la fois les sciences sociales et vis-à-vis duquel tout un chacun a le sentiment d'être légitime de par son expérience à produire une opinion informée. Et il est parfois difficile de faire entendre ce que l'histoire, la sociologie, l'enquête au sens non pas des sondages, mais l'immersion sur un terrain pour produire des savoirs, peut apporter à ces débats. Et tout sans tomber non plus dans la figure de l'expertise, puisqu'il y a aussi évidemment des savoirs qui sont produits dans les espaces militants, donc qui en retour en fait sont aussi très utiles aux sciences sociales sur ces questions-là.
Et d'ailleurs, sans forcément spécifier des espaces militants, vous disiez à l'instant, Mélène Servera, qu'il y a, si on dit en chacun d'entre nous, un candidat possible pour de l'analyse sociétale, ça veut dire que ce ressenti amateur, cette observation amateur, elle est à valoriser, ça peut être un appui pour le chercheur.
Bah, je pense que pour répondre à cette question difficile, on peut évoquer un triptyque de savoir, hein, qui est dans la méthodologie, par exemple, d'ATD Carbone, qui peut être remise en question, tout en ne disant pas forcément que en chacun de nous, oui, il y a une expérience plus qu'une expertise et un savoir, il y a une expérience qui peut être traduite à un moment donné en connaissance. Le triptyque des savoirs qu'ATD Carbone nous donne, c'est celui du savoir de vie, en premier lieu du savoir expérientiel, finalement de tout individu, premièrement. Deuxièmement, le savoir d'action des professionnels qui est certifié par des formations, par exemple. Et enfin, le dernier savoir dont il parle, c'est ATD Carbone, c'est le savoir académique. Et ce que dénonce ATD Carbone, bien souvent, c'est de voir une domination finalement certaine du savoir académique qui est créé à l'université ou dans les institutions de recherche sur les deux autres types de savoir, voire le savoir d'action des professionnels, complice du savoir académique qui domine finalement le savoir d'expérience. Alors il y a de nombreuses initiatives qui donnent à voir finalement une égalisation de ces savoirs, sachant que ATD Carmonde, par exemple, préconise d'isoler finalement pour qu'il se construise et qu'il se trouve isoler le savoir d'expérience dans un premier temps pour qu'il monte en connaissance, je dirais, ou qu'il trouve sa voie de connaissance.
Ça veut dire que dans mon introduction, je suis optimiste quand je parle d'aller-retour et de porosité entre un espace un peu difficile à circonscrire qui serait la société, donc les citoyens, les acteurs civils, et la recherche, l'université, l'académie. C'est naïf et optimiste cette idée d'aller-retour, Juliette Rennes ?
C'est en tout cas une aspiration à laquelle beaucoup d'entre nous travaillons et d'intervenir dans des espaces qui ne sont pas des espaces d'entre-soi académiques, faire venir ces savoirs-là dans d'autres espaces. Vous avez commencé avec une référence à l'intersectionnalité d'Angela Davis, à propos de la republication de textes d'Angela Davis. C'est typiquement un terme qui a émergé à la fois dans des luttes politiques pour notamment féministes des africaines-américaines aux États-Unis pour dénoncer la façon dont finalement, la femme comme sujet du féministe avait été implicitement réduite à des femmes blanches de classe moyenne, plutôt hétérosexuelles, et puis on ajouterait aujourd'hui plutôt d'âge moyen, plutôt valide, etc. Et puis que les femmes noires n'étaient pas représentées par ce sujet collectif des luttes, mais aussi des sciences sociales, c'est-à-dire la femme comme sujet implicitement blanc de classe moyenne, a à la fois été le sujet implicite de mobilisation pour un certain nombre de droits qui ne concernaient pas de la même manière et avec la même expérience toutes les femmes, mais aussi a été le sujet d'un certain nombre de productions de sciences sociales. Les critiques militantes ont permis aussi de reconfigurer le champ des savoirs sur le genre et le sujet de ces études-là.
Est-ce qu'il y a un calendrier comme ça qui est constant entre les sujets qui s'avancent, les recherches qui s'ouvrent, les thèses qui s'engagent, les masters qui se montent, et les luttes, et les combats, et le militantisme ? Est-ce que ça avance à peu près au même rythme ? Est-ce que quand on commence à travailler l'intersectionnalité du côté du militantisme, ça bascule du côté de l'université, etc., etc.
Moi, ce qui me frappe plutôt, c'est les asynchronies, hein, le fait que l'histoire des savoirs en sciences sociales et l'histoire des luttes n'avancent pas tout à fait au même rythme. C'est aussi pour ça qu'il est important que la recherche soit indépendante et que les chercheurs butinent au rythme de leurs propres questions, produisent des savoirs sans savoir à quel moment ils vont être saisis ou pas par des mobilisations. Et l'intersectionnalité et la façon dont il a été importé en France est un bon exemple, puisque il n'a pas été importé directement dans le contexte des années 80 où il était important aux États-Unis, mais plutôt parce qu'il a permis de penser des problèmes dans les luttes sociales et dans les questions féministes, notamment sur la question du port du foulard. Depuis les années 90.
Donc plus tard.
Plus tard. Et il s'est diffusé dans les sciences sociales et dans les luttes ce terme 30 ans plus tard, 30 ans après les États-Unis.
Sur cette question d'histoire des savoirs et de temporalité, Mélène Cervera ?
Je pense que dans tous les cas, ouais, comme le souligne Juliette Rennes, il y a un peu un certain décalage et qu'en même temps, cette question, elle provient peut-être d'une dichotomie qu'on fait un peu bizarrement entre le chercheur et l'acteur. Et que finalement, la construction de la position que va avoir le chercheur, elle se fait aussi par rapport à sa propre expérience sociale et cette expérience intime du monde. Et qu'elle se fait également, ce qu'un certain nombre de chercheurs peuvent essayer de détacher d'eux-mêmes, par rapport à leurs engagements dans le monde, et également, pour une grande majorité de chercheurs, par rapport à leur engagement militant également. Et de ce fait, je pense que, oui, il y a une certaine circulation entre ces différents mondes, si on veut les parler en conceptualisation comme ça, qu'il y a une circulation entre une sorte de triangulation des mondes, entre le monde de la recherche, le monde politique finalement, et le monde citoyen. Mais que ces frontières entre ces trois mondes sont bien évidemment poreuses et qu'il y a une alliance, je dirais, pacifiée entre le monde de la recherche et le monde militant. Et Et par rapport à ça, je voulais simplement ajouter que, justement, il faut continuer à avancer. Vous disiez, il faut prendre le temps de butiner. Je pense que pour un certain nombre de chercheurs aussi, c'est de plus en plus difficile d'avoir le temps de butiner.
Ce qui rejoint la question de la propre expérience sociale, hein, parce qu'on peut aussi parler de leurs conditions économiques, de leurs conditions d'indépendance. Bien sûr que ça influe.
Voilà.
Le travail du sociologue est difficile, c'est parce qu'il a lui-même des préjugés, qu'il fait autant de travail contre ses préjugés que contre les préjugés des autres. Enfin, bon, alors, quelqu'un a dit très méchamment contre moi, à propos du rôle que j'ai joué dans un conflit récent à France Culture, que, enfin, j'étais pas nommé, mais enfin, c'était facile de reconnaître, que j'avais lancé un certain nombre de spécialistes de l'agitprop. À France Culture. Alors pour les jeunes qui ne savent pas agitprop, ça veut dire agitateur professionnel, c'était des gens qui étaient chargés d'aller dans le peuple pour prêcher la révolution. Alors si j'ai fait un tout petit peu d'agitprop, c'est en toute modestie ce qui était un peu mon intention. Voilà. Et si ça a un tout petit peu réussi, je serais très content.
Deux dernières questions et une conclusion de Pierre Bourdieu.
Le politique a le dos bien rond là ce soir, parce que l'ensemble des commissions, quand elles sont mandatées ou missionnées par les politiques, il y a toujours un sociologue à l'intérieur. Le politique prend en fait, je veux dire, l'essence même de ce que vous pouvez vous apporter lors de vos rapports. Parce que bien souvent, le sociologue, pour moi, en tant qu'habitant de quartier, c'est plus un psychiatre de banlieue, quoi. À chaque fois qu'il y a eu un problème, enfin, excusez-moi, mais c'est le terme que nous on emploie.
Psychiatre de banlieue, ça c'est insultant, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, il y en a peut-être. Enfin, moi.
Je suis désolé, pour moi c'est pas des collègues, ce sont des casseurs de métier, des jaunes. Voilà. Alors, je suis désolé, mais je suis obligé de dire ça, parce que sinon je peux pas me solidariser avec ces gens-là. J'en ai rien à foutre de leur existence, ils ne me gênent en rien, sauf qu'ils peuvent légitimer une certaine révolte générique contre le discours des sociologues, et ils peuvent justifier un certain anti-intellectualisme. Bon, et ça, je suis désolé d'entendre l'anti-intellectualisme. Le mouvement ouvrier français a crevé d'anti-intellectualisme. Le mouvement ouvrier français a été fondé sur une espèce d'ouvriérisme qui autorisait les dirigeants à être bêtes et à demander la bêtise au nom de la discipline de parti. Bon. Alors je pense que parmi les facteurs explicatifs du fait que le mouvement social ne s'organise pas, il y a cet anti-intellectualisme. Et quelqu'un a dit, si tu lisais, bon alors là je suis désolé, je vais jusqu'au bout, si tu lisais un peu plus Bourdieu, peut-être que tu trouverais des choses, en particulier ça. En particulier des instruments pour comprendre ça. Et ça, c'est pas pour faire la pub, j'en ai rien à foutre. Hein. Faites attention de ne pas laisser votre indignation légitime, 100 fois justifiée, vous aveugler et vous conduire à vous priver d'instruments de connaissance.
Ne pas se priver d'instruments de connaissance. C'est un extrait un peu long, mais néanmoins fort intéressant, du livre La sociologie est un sport de combat, Pierre Carl, 2002. On entend Pierre Bourdieu, il est en fin conférence, en échange avec le public. On entendait une question et un commentaire, notamment d'un homme qui était là et qui l'interpellait sur la place du sociologue dans des moments de rapport, d'évaluation, de travail avec la politique publique. Peut-être d'abord sur la dernière phrase que prononce Bourdieu. Il ne faudrait pas que votre indignation, si légitime soit-elle, vous prive d'outils, de connaissances. Et il évoque au passage la question de la classe ouvrière. Encore faut-il avoir accès à cette connaissance, Mélène Cervera.
Oui, c'est difficile de réagir à brûle pour point comme ça, mais il est vrai qu'il faut remettre dans son contexte un petit peu la conférence dans un quartier périphérique de Paris de Pierre Bourdieu dans le film de Pierre Carl, hein, qui avait fait parler de lui en 2001 à ce moment-là. Oui, est-ce que l'indignation aveugle? J'aurais tendance à répondre non, moi, par rapport à Bourdieu, et elle ne prive pas d'accéder à un certain nombre de connaissances. Et la réaction de Bourdieu, là, à ce moment-là, relève toute l'ambiguïté, finalement, du savoir sociologique par rapport à, au monde social, par rapport à son terrain et par rapport à, je me risque, hein, au profane ou à l'individu ordinaire qui ne serait pas le sachant, le savant ou l'intellectuel.
En tout cas, la personne qui l'interpelle, là, pour prendre cet exemple-là.
Oui, c'est très ambigu, puisque à la fois il dit qu'il ne faut pas se priver de ses savoirs, et en même temps, et les post-bourdieusiens, ou la tradition bourdieusienne ensuite qui est arrivée, crée ce rapport au monde social, et en même temps, il s'adresse à la conférence, au public de la conférence, en surplomb de
et en parlant de lui à la troisième personne. En voilà. Disant, si au passage, alors on sent l'ironie, hein, mais il dit, si au passage, et je vais jusqu'au bout, si au passage vous lisiez un peu plus Bourdieu, voilà, vous ne vous priveriez pas d'outils de connaissances. Ça pose la question à la fois de la place du savoir, de la science sociale dans la société, mais aussi de la circulation de ces outils et de ces savoirs. Dans l'introduction de cette encyclopédie à apparaître, Juliette Rennes, vous parlez d'un patrimoine. Alors c'est sur un tout autre sujet, mais d'un patrimoine commun. Vous diriez que c'est ça, la manière dont les sciences sociales fabriquent une boîte à outils dont peuvent ensuite s'emparer les autres ?
Oui, c'est-à-dire que c'est pas qu'elle fabrique une boîte à outils dont ensuite pourraient s'emparer les autres, puisque cette boîte à outils se fabrique aussi
avec
les autres, et comme on en parlait tout à l'heure, avec les luttes sociales, et la question du genre est un bon exemple de travaux qui se sont forgés d'abord à partir de mouvements féministes dans les années 70, et même en fait en amont aussi toujours la genèse dans les militantes des études de genre dans les années 1970, mais même il y a un peu plus d'un siècle, à la fin du 19e siècle, les premières étudiantes qui se sont intéressées aux inégalités entre les sexes, à ce qu'elles appelaient l'infériorisation des femmes ou le masculinisme, un terme qui a été forgé à la fin du 19e, étaient elles-mêmes engagées dans des luttes féministes et produisaient des savoirs en mobilisant les sciences sociales émergentes pour montrer que les inégalités étaient socialement construites, que les femmes n'étaient pas inférieures par nature mais avaient été infériorisées. Et donc ça a été immédiatement construit comme un échange entre l'expression d'une position au monde infériorisé politiquement et le recours à des outils des sciences sociales qui dénaturalisaient déjà avec Durkheim l'ordre social tel qu'on l'observe.
Ce qui est aussi palpable dans cette archive, c'est la manière dont le sociologue ou le savant ou ce savoir savant est interpellé sur sa place, notamment quand il travaille avec la politique publique ou avec la concertation politique ou avec, je ne sais pas ce qu'il évoquait en particulier cet homme-là, mais peut-être éventuellement l'aménagement du territoire ou une expertise sur ces territoires. Est-ce qu'il vous arrive l'un et l'autre dans vos quotidiens justement d'avoir à questionner votre place dans le social, dans la société, vis-à-vis du politique, vis-à-vis de l'organisation de la société ?
Tout dépend de la place qu'on occupe, en effet. Tout dépend de notre propre trajectoire de recherche, de notre propre trajectoire personnelle et de notre trajectoire militante. En effet, dans nos pratiques de recherche, enfin pour la mienne, le questionnement de ma place dans le monde est sans cesse renouvelé. Finalement, puisque je pense que les recherches, elles ne peuvent se produire que par doute, que par hésitation et tâtonnement. Et de ce fait, même à une période ou au cours de ma thèse, j'ai pu en aller jusqu'à remettre en cause ma place de jeune chercheur ou d'universitaire, ma légitimité à interroger ce monde social, la légitimité aussi du sociologue à mener un certain nombre d'entretiens, de collecter des données qualitatives sur des terrains plutôt fragiles, plutôt sensibles, sur des terrains que moi j'ai pu appeler dans le cadre du VIH des terrains hostiles. Donc je pense que à la fois on apprend une position qui se voudrait d'une certaine neutralité axiologique héritée, mais qui en réalité est un petit peu une illusion.
Quand vous dites on apprend, c'est dans votre parcours universitaire, on vous inculque cette idée de la neutralité.
Oui, et qu'en fait, interroger ce monde social, finalement, y collecter des données, je pense qu'il faut retourner à des réflexions épistémologiques et se demander qu'est-ce que je visibilise et comment j'analyse ce discours, comment j'analyse cette donnée, qu'est-ce qu'on me donne à voir là, comment une personne en fragilité, par exemple psychique ou en fragilité de santé, répond à un entretien, se met à pleurer, etc., etc. Comment le sociologue ou le chercheur, peu importe l'étiquette académique, finalement l'étiquette disciplinaire, comment il fait passer cela à travers des analyses ensuite, et comment il donne à voir à d'autres niveaux, à d'autres sphères de ce monde social.
Et d'ailleurs, pour reprendre la manière dont l'APEX, l'association que j'évoquais en début d'entretien, définit son périmètre en parlant de recherche-action, ça veut bien dire qu'il y a, dans la manière dont vous, collectivement, vous interrogez votre place en tant que chercheur, des lignes qui bougent. Quand il y a le fait d'accoler le mot « action », c'est pas rien.
Oui, il y a des lignes qui bougent et en même temps, on est pris dans des processus de légitimation de l'action ou de reconnaissance académique qui n'ont rien de totalement d'évident. Mener des recherches-actions ou des recherches compréhensives appliquées au social, en sciences sociales, cela demeure hors de l'institution académique, souvent difficile. Il est important...
Essayez d'être plus clair, c'est-à-dire, vous ne pourriez pas faire les recherches que vous faites si vous n'étiez pas dans... l'académie ou dans les...
Je pense que si nous n'avions pas eu cet apprentissage finalement académique, nos parcours atypiques, quand bien même nos parcours sont atypiques, nous n'aurions pas pu finalement avoir cette philosophie qui questionne le rapport au monde social et mener ce type de recherche en sciences sociales.
Sur toutes ces questions, Juliette Rennes, je voulais prendre des notes.
Oui, j'ai écouté avec intérêt Mylène Cervera. Effectivement, je pense comme lui que la notion de neutralité axiologique, puisque vous nous interrogez sur la position qu'on occupe dans le champ des sciences sociales et dans le champ politique, la notion de neutralité axiologique a été beaucoup mise en question par les sciences sociales et notamment puisque vous m'avez aussi invité au titre du champ des études de genre auquel je participe. Cette notion a été remise en cause donc par celle de réflexivité plutôt, c'est-à-dire le fait que on occupe tous et tous une position dans le monde social de genre, de classe, on occupe une position dans l'histoire, on occupe une position géopolitique, et les sciences sociales nous invitent à nous méfier de tous les centrismes, hein, l'ethnocentrisme, le sociocentrisme, l'androcentrisme pour les hommes, etc. Et j'en passe. Et je pense que c'est une méfiance vis-à-vis des propres biais ou des propres préjugés de connaissances qu'on peut produire soi-même en tant qu'individu ordinaire, socialement situé, dont l'expérience même et les questions de recherche même sont produites par notre situation. Ce qui signifie pas qu'on produit... que la science et qu'on produit ou les savoirs qu'on produise ne sont pas vérifiables, validables par des règles, parce qu'on a des règles de production des savoirs, de constitution de nos corpus, de nos matériaux d'enquête, mais qu'on est situé par les questions qu'on se pose, ne serait-ce qu'historiquement. C'est-à-dire que quand on regarde les questions sociologiques qui se posent il y a 30 ans, on a un sentiment d'ailleurs assez illégitime et de supériorité cognitive par le fait qu'ils ne voyaient pas tout un nombre de choses qui aujourd'hui nous paraissent évidentes.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
Je suis venue te dire qu'il n'y a pas beaucoup d'avenir, qu'un petit futur, tout petit futur, dans ce vrai désert. Je suis venue te dire qu'on a plein de choses à se dire, tout autant à faire, cet hélicoptère, moi il me fait pas peur. Je suis venu te dire un décor en hauteur et haut en couleur, c'est fou ce qui m'attire, ce grand ascenseur. Je suis venu t'offrir ce ticket pour ailleurs, ce billet de retour, c'est pour tout à l'heure. Je veux reprendre place là où on s'était caché, tout là-haut dans l'espace, n'est-ce pas? On s'était allongé et je veux reprendre ma place là où je l'avais laissé, là où l'on s'était caché. Ce matin j'ai vu l'avenir, il nous fait un sourire, m'a chargé de te dire qu'il fallait revenir, qu'on devrait revenir. J'aimerais réinscrire sur la carte du ciel ton joli sourire plus haut que Babel. Je veux reprendre place là où l'on s'était caché, tout là-haut dans l'espace, n'est-ce pas? On s'était allongé et je veux reprendre ma place là où je l'avais laissé, là où l'on s'était caché, là où l'on s'était fâché. Te dire non pas que je m'en vais, ni que tu m'en as trop fait, ni que je suis au regret, ni que je suis au regret. Je suis venu tenir mon discours sur l'amour, il a fait pas mon affaire ce petit détour. Je veux reprendre place là où l'on s'était caché, tout là-haut dans l'espace, n'est-ce pas? Là où on s'était caché, je veux reprendre ma place.
Genre à l'école, c'est un nouveau point de tension. Comment y réagissez-vous?
J'y réagis par un soupir. Vraiment, parce que moi, je ne sais pas ce que ça veut dire théorie du genre, ou pour le dire autrement, comme certains se plaisent à l'appeler théorie du gender, parce que ça fait encore plus peur d'utiliser un mot étranger. D'ailleurs, c'est drôle, à cette occasion, j'ai découvert que les conservateurs américains, eux, quand ils dénoncent eux aussi la théorie du genre, mais aux États-Unis, ils l'appellent « the genre theory ». Donc c'est quand même très drôle, eux ils utilisent le mot français pour faire peur aussi à leurs concitoyens. Donc qu'est-ce que c'est la théorie du gender? Pas grand-chose, moi je connais les études de genre, qui sont des études pour le coup scientifiques, sociologiques, qui ont un intérêt majeur, qui est de mieux comprendre comment les inégalités sociales se creusent en se basant sur une différence biologique, qu'elles ne remettent jamais en question, la différence entre les femmes et les hommes. Mais en revanche, ce qu'on peut remettre en question, c'est les inégalités sociales qui accompagnent ces différences de sexe. Et donc, les études de genre, en mettant en lumière la construction de ces inégalités, permettent au pouvoir public de mieux lutter contre ces inégalités.
Najat Vallaud-Belkacem, en juin 2013, au micro de Louise Touré sur France Culture, dans Rue des Écoles, et qui parle, on y reviendra, de la question de théorie du genre et la manière dont ce terme a été utilisé. On parle de la place et de l'interaction entre les sciences sociales et différents changements sociétaux. Juliette Rennes, quand vous entendez une ministre dire la théorie du genre, bon, je ne sais pas ce que c'est, les études de genre, précisez. Moi, je me suis fait la réflexion en écoutant à l'instant que c'était assez rare d'entendre une ministre interviewer et convoquer finalement des notions qui sont des notions habituellement discutées dans une classe de conférence à l'université ou en bibliothèque ou dans des colloques. Vous, qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez ça?
Oui, alors ça a été un des aspects d'une certaine manière positif pour les sciences sociales des controverses politiques qui se déploient depuis 6 ans. Sur la dite théorie du genre, c'est-à-dire depuis qu'il a été question d'introduire la notion de genre dans des manuels scolaires de sciences de la vie et de la terre du secondaire, puis d'instaurer le mariage des couples de même sexe en 2013 et de développer des projets de pédagogie antisexiste, les ABCD de l'égalité récemment. Et finalement, tous ces débats qui se sont déployés depuis 5-6 ans ont été l'occasion d'entendre des éléments qui, évidemment, font se hérisser beaucoup d'entre nous, beaucoup de collègues qui travaillons sur ces questions depuis longtemps. Mais en même temps, ont été l'occasion d'une pédagogie, justement, autour de ces questions et de faire sortir un peu les travaux de sciences sociales de l'arène académique pour en parler dans des médias, dans des débats. On a été les uns, les unes et les autres invités dans des bibliothèques municipales, des débats dans des mairies, dans des médias qui n'étaient pas spécialement portés sur les sciences sociales, pour nous demander, mais finalement, c'est quoi cette théorie du genre ? Donc ça, c'est un des aspects, d'une certaine manière, positif, d'avoir fait entrer ce terme et lui faire perdre ses guillemets, je dirais, dans les usages éditoriaux. Hein, maintenant, c'est complètement devenu banal d'employer ce terme chez des grands éditeurs et dans la presse. Il me semble que le terme devrait, enfin, a sans doute à vérifier, mais perdu dans beaucoup d'usages ses guillemets d'étrangeté. Ensuite, ça a été, elle mentionne les études de genre. On peut, peut-être, on en reparlera, discuter. La définition qu'elle en propose, mais...
Non, c'est assez intéressant, on peut tout de suite en parler, parce que c'est quand même, je trouve, l'histoire assez fracassante, justement, d'une transplantation, de quelque chose qui est assez précis, qui concerne des chercheurs depuis des dizaines d'années, qui sont des choses qui ont des contours très précis, les études de genre, et qui se retrouvent inévitablement résumées dans la voix d'une ministre, résumées et instrumentalisées, puisque ça, ensuite ça devient un élément d'un argumentaire, d'un débat ou d'une bataille à l'échelle de la société, où on entend... tout et son contraire et pas mal de choses de n'importe quoi.
Oui, c'est-à-dire que j'ai écouté rapidement parce que j'ai redécouvert cet extrait que j'avais pas en tête. Il me semble qu'elle essaye de rassurer son auditoire en disant que les études de genre essayent d'expliquer les inégalités entre les sexes, mais qu'elles ne remettent pas en cause la différence biologique. Et c'est souvent ce qu'on retient d'acceptable, même si ce n'est pas acceptable déjà par tout le monde, hein, mais de plus acceptable, ce distinguo entre sexe et genre. On sait bien qu'il y a une différence des sexes, et puis ensuite, il y a un territoire limité de choses socialement construites sur lesquelles on peut agir. Et en fait, malheureusement pour les anti-genres, et qui ont d'une certaine manière raison de s'inquiéter, c'est que les travaux sur le genre vont plus loin dans l'enquête de la construction sociale des différences et s'intéressent aussi à la façon dont ce qu'on attribuait classiquement à des différences biologiques, anatomiques, ont été aussi l'objet de construction sociale. Il y a eu des travaux sur la taille, la différence de taille entre les sexes de Priscille Touraille, qui ont montré que cette asymétrie exceptionnelle dans les sociétés occidentales contemporaines entre des hommes grands et des femmes petites était aussi l'objet de normes sociales qui, sur le long terme, c'est-à-dire le fait que les hommes préfèrent les femmes petites, avaient produit une surreprésentation dans le pool génétique des populations occidentales des gènes des femmes petites et institué en norme cette configuration, sans parler des questions d'alimentation, le fait que les protéines ont été plus généreusement distribuées aux garçons et autres explications qui montrent que ce qui est aussi intéressant dans les études de genre, c'est cette frontière qu'elles ont fait sauter entre les sciences du vivant, les sciences biologiques, la génétique, qui seraient naturelles, et les sciences de l'environnement, qui seraient les sciences sociales. Et elles montrent que, en fait, on peut aussi penser l'articulation des deux à travers les questions de genre. Un autre exemple est celui de la voix, la différence vocale entre les sexes qui est pensée comme n'étant pas un objet de sciences sociales parce que c'est un caractère sexuel secondaire, les femmes ont la voix plus aiguë, les hommes ont la voix plus grave. Des travaux de sociolinguistes montrent que bien avant la puberté, les enfants apprennent à imiter, les filles qui ont la voix naturellement plus grave apprennent à la rendre plus aiguë par imitation avec les femmes, et les garçons inversement, pour se conformer aux normes de genre. Et sur l'histoire d'ailleurs, sur le long terme, la voix des femmes est devenue beaucoup moins, les hauteurs de voix ont changé selon les normes, puis elle varie d'une société à l'autre. Donc le genre est aussi un exploratoire de cette apparente naturalité des corps et des différences sexuées.
Et ça me fait quand même revenir à l'idée d'une boîte à outils argumentatifs qui était en effet peut-être pas très heureuse comme formulation tout à l'heure. Cependant, là, on se rend bien compte que les études de genre produisent des possibilités de réponse à des arguments avancés massivement, à savoir, oui, mais tu te rends bien compte, la faiblesse du corps des femmes, la force des... Et ce que je veux dire, c'est que de quelle manière on peut imaginer que ces savoirs-là puissent être mis plus largement en circulation, de sorte qu'ils soient des outils aussi pour que, je sais pas, une petite fille ou une adolescente ou un adolescent puisse pouvoir répondre.
Oui, mais je pense qu'il y a...
Ce ne sont pas des arguments qui sont à disposition de la majorité, loin de là.
Non, mais aucun argument n'est à disposition. C'est-à-dire que les personnes, oui, se rencontrent des difficultés dans leur existence et après, elles ont ou pas les conditions de pouvoir lire, rencontrer des personnes qui ont écrit sur ces questions. Alors, il me semble qu'il y a, pour donner quelques éléments d'optimisme sur ce dialogue, il me semble que il y a une tendance et une recherche collective de jeunes chercheurs en sciences sociales pour réfléchir aussi à la forme même de leur de la diffusion de leur savoir. On a été beaucoup, je pense, et on continue à être un peu pris dans des contradictions de répondre à des normes de production de savoir qui consistent à écrire pour nos pairs. On est évalué lorsqu'on publie dans des revues selon des critères qui sont certains légitimes, d'autres discutables, et à devoir donner des gages en utilisant un certain jargon disciplinaire. Et on se rend compte souvent qu'on peut exprimer de façon aussi précise et exigeante avec un autre langage les résultats de nos recherches.
Et dans d'autres sphères.
Comment ?
Et dans d'autres sphères.
Et dans d'autres sphères, je pense à, parmi d'autres, hein, la diffusion depuis 10 ans de travaux de sciences sociales sous forme de bandes dessinées et une collection qui s'appelle Bédérama, Sociorama, pardon, chez Casterman, par exemple, qui consiste à mettre en récit graphique des enquêtes assez poussées de sciences sociales, des thèses en fait de sciences sociales sur des sujets divers. Et là, ça pose la question de la façon dont on peut voilà, ajuster et exprimer avec différents supports des résultats. Les historiens aussi, c'est une réflexion qui traverse le champ de l'histoire depuis plus longtemps, peut-être parce que l'histoire est déjà un récit de façon plus évidente et donc le dossier entre des formes d'écriture plus littéraire et des formes d'écriture plus scientifique est quelque chose qui a déjà été travaillé par les historiens. Mais il me semble que ça, c'est aussi une des pistes pour, sans perdre en exigence, se rendre plus accueillant à des lecteurs qui ne sont pas des pairs.
Sur cette question de la mise en forme et de la mise en circulation du savoir produit, Mélène Cervera.
Bah, je pense que par rapport à ce que vous dites, Juliette Rennes, on peut encore essayer d'aller plus loin. Et finalement, on peut diversifier les supports et penser l'au-delà du livre également ou de la BD, et qu'il s'agit alors là pour les chercheurs, qu'ils soient militants ou non, d'aller vers les sphères citoyennes, qu'elles soient organisées ou non, pour opérer finalement de la médiation scientifique en sciences sociales. Opérer des recherches d'action avec des quartiers, des recherches de structuration sur des communautés de vie dans les campagnes. Je pense que le chercheur finalement doit à un moment donné pouvoir sortir des voies reconnues de diffusion de la connaissance pour la produire avec les acteurs sur le terrain. Et je pense qu'il y a différentes initiatives qui existent depuis longtemps. Hein. Je pense aux collèges coopératifs, finalement, les associations de collèges coopératifs qui ont fait avec les acteurs, qui portent des diplômes sur le travail social, où je pense à des associations qui émergent, aux travaux en général sur les communs aujourd'hui, qui font une grande place finalement aux paroles des acteurs, à l'expertise des acteurs, ou aux pratiques sociales en même temps. Et je pense, à un moment donné, à la réflexivité que vous mentionniez tout à l'heure. À un moment donné, les objets de recherche qu'on choisit ne viennent pas par hasard. Et de ce fait, peut-être, à un moment donné, que les recherches, oui, ont un parti pris, et oui, qu'elles gagnent à visibiliser ce qui est soumis à l'invisible, ou ce qui est caché. Et pour ce faire, il y a un certain nombre de sociologies qui se construisent, qui sont celles de la sociologie des émergences et des absences, des sociologies qui nous proviennent plutôt des pays du sud du monde, qui sont des pistes pour nous hyper féconde.
Et là, j'en reviens peut-être à l'extrait qu'on entendait du film La sociologie est un sport de combat, où il était question de l'anti-intellectualisme et de la manière dont, selon Bourdieu, la classe ouvrière avait souffert de cet anti-intellectualisme pour part construit. Est-ce que c'est quelque chose à quoi ces actions-là, pourtant nouvelles et pourtant progressives, peuvent se heurter ?
Elles peuvent se heurter finalement à une crispation des institutions. Tout est l'idée est de savoir comment les relations de confiance finalement entre les terrains se construisent et comment des relations interpartenariales entre des institutions bien assises et des institutions en construction se tissent. Comment ces partenariats se tissent ? Comment les partenariats finalement avec les terrains de recherche se tissent ? Et comment à un moment donné chacun fait un travail de réflexivité qui le détache de sa position.
Yeah, I went to France for 16 years.
Pendant 16 ans, je suis venue en France.
To visit Simone de Beauvoir.
Je venais voir Simone de Beauvoir. Je voulais rendre compte aussi, dans une certaine mesure, de la situation.
About American feminism.
Je voulais lui dire comment allait le féminisme aux États-Unis. Je voulais raconter tout cela à Simone parce que nous échangions une correspondance. J'écrivais des courriers, je lui envoyais des courriers.
To tell her what was going on. And then I would have lunch.
Je la tenais au courant. Donc je venais ici, on déjeunait ensemble et je lui faisais le compte-rendu de ce qui se passait aux États-Unis.
And always I had to keep reminding her, you know, the Americans have frivolous minds.
À chaque fois, je lui disais, mais n'oubliez pas, l'esprit est un peu frivole aux États-Unis.
We want to stop war. We want to help the prisoners.
Nous voulons effectivement aider les pauvres, les détenus, les prisonniers.
Always to do other things as well.
C'est-à-dire que nous voulons être actives sur d'autres terrains également. Elle me disait, mais pourquoi est-ce que vous ne vous contentez pas de vous concentrer sur la question des femmes?
And I said, well, you know, the Americans.
Et moi, je lui disais, les Américains, c'est comme ça, vous savez comme ils sont.
Because we also have a tradition called social feminism.
Il y a aussi une tradition chez nous qui est celle du féminisme social, qui remonte à très loin.
I mean, Claire Barton tried to
Claire Barton, par exemple, a essayé de réformer
the prisons, etc.,
tout le système pénitentiaire
and all the anti-war things in England too,
et carcéral
were very important to the Americans.
Et tout ce qui se passait, y compris en Angleterre, de ce point de vue-là, importait aux Américains.
So I had to understand the politics of sexual.
Il fallait donc que je comprenne le ressort politique de l'identité sexuelle.
Because it is political.
Parce que c'est une question politique.
Oh, he stands in front of me and he's staring manically, screaming, oh, society, what have you done to me? The ground I've tread so many years, all this blood and sweat and tears, just to be inside your mold and do just what I'm told. If only I had been so bold. But now my body's getting old and time is oh so golden. If only it could be frozen. But you took it away from me. Oh, society took it away from me. Oh, my liberty. Oh, you took it away from me. Oh, society, you took it away from me. When you break
Et on est tous charmés par la voix d'Alice Webelou. Il est 14h49 sur France Culture. Donc on va quand même poursuivre notre discussion. On entendait juste avant elle une autre voix, celle de Kate Millet au micro de Laure Adler dans une émission hors champ diffusée en mars 2014 sur France Culture. Elle évoque l'écriture de sa thèse aux États-Unis, les échanges, les dialogues avec Simone de Beauvoir et puis la parution de ce premier livre important, Sexual Politics 1970 aux États-Unis et La politique du mal en 1971 en France. Peut-être pour terminer sur une note un peu plus internationale que, de notre dialogue. Juliette Rennes, aujourd'hui, quand on pense à la diffusion, à la circulation des savoirs en termes d'études de genre, ça se passe définitivement à l'échelle mondiale, dans le dialogue, dans la manière dont vous échangez, dans la manière dont ça bouge.
Oui, alors ça se passe à une échelle globale qui, en même temps, est une échelle fortement asymétrique et dominée par les États-Unis, y compris au niveau du changement de terminologie qui se développe au sein de ce champ de recherche. Hein. Le terme d'intersectionnalité avec lequel on a commencé l'émission est une traduction d'un terme en anglophone, et certaines chercheuses francophones font valoir qu'elles ont pensé elles aussi l'articulation des rapports sociaux ou la multidimensionnalité des rapports sociaux avec un autre vocabulaire de façon parallèle. En même temps, on ne va pas défendre non plus l'impérialisme francophone contre les États-Unis, mais il est vrai qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours entre la France, les États-Unis, un peu avec ce qui se produit aussi dans le champ des recherches sur le genre en Amérique latine, autour de la question des violences, notamment des féminicides, qui a été beaucoup théorisée en Amérique latine. Les études subalternes dans le monde indien ont aussi été incorporées et discutées dans les travaux sur le genre. Ce qui est intéressant, c'est ces phénomènes parfois de double retraduction, puisque la French Theory, ou la théorie française qui a été construite finalement, comme ça a été bien montré aux États-Unis à travers un certain nombre d'auteurs français qui étaient mis ensemble sans l'être du tout en France, Derrida, Sixous, Lucie Rigaraille, etc., nous sont revenus par les lectures qu'en ont faites des théoriciennes féministes, queer, états-uniennes, et qu'on s'est mis à redécouvrir par ce biais-là. Donc il y a des phénomènes aussi d'exotisation parfois des théories françaises qui sont assez présentes dans les débats internationaux sur le genre.
Mais du coup, avec des regards et des retours qui ne sont pas inintéressants à reprendre en boomerang 10, 15, 20 ans après.
Oui, c'est le cas notamment autour des études culturelles qui ont été peu développées en France, mais qui ont été développées davantage aux États-Unis et en Grande-Bretagne, en mobilisant aussi des auteurs français plus anciens.
Pour conclure un petit peu rapidement, Mélène Cervera, sur une dimension un peu plus internationale de la discussion qu'on a eue cet après-midi.
C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Hein. Je pense que même s'il faut garder ces spécificités, ces approches par rapport aux environnements sociaux qui nous englobent, il faut briser les frontières. Et je tiens à reparler justement tous les travaux sur l'économie populaire ou l'économie solidaire au Sud qui peuvent nous apporter des pistes pour rendre visibles des choses émergentes.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux. 14h53 sur France Culture, merci d'être avec nous. Et la rubrique qui vient s'appelle 5 fois, car 5 fois nous entendrons chaque semaine la voix d'un invité fil rouge, s'emparer comme il le souhaite, et donc différemment de nous, s'emparer de notre thématique, 5 récits subjectifs pour ouvrir encore le spectre des points de vue. Cette semaine, c'est la voix grave d'Ekwe, membre du duo de rap La Rumeur, avec laquelle vous avez rendez-vous. Vivre ensemble, communautarisme, il commente aujourd'hui ces termes tant utilisés.
Il y a des termes comme ça qui reviennent un peu dans le débat public, et vivre ensemble, communautarisme, à un moment on entendait de patriotisme économique, enfin genre, tous ces trucs-là, qui finalement sont des slogans parmi tant d'autres, en tout cas qui obéissent finalement aux mêmes logiques publicitaires que vendre un yaourt ou, je vais dire, une nouvelle application. Enfin, moi c'est comme ça que je l'interprète. Mais en tout cas, là où quand on prend le parti, en tout cas, de regarder cette réalité là de façon plus profonde, on se rend compte que, ouais, en tout cas moi, dans la banlieue telle que je l'ai connue, elle était riche de sa diversité. Elle avait à la fois des amis de toute race et toute religion et des ennemis de toute race, toute religion, quoi. Je veux dire, voilà, on était, en tout cas, il y a quelque chose qui marchait. Voilà. Moi, je peux aujourd'hui me targuer finalement
d'un vivre ensemble qui a été effectif.
Ouais, et puis de me dire que voilà, je sais comment vit mon voisin. Je veux dire breton, mon voisin marocain, mon voisin juif tunisien, mon voisin pakistanais, mon voisin laotien, mon voisin gitan, italien, portugais. On a été nourris de ça. Voilà. Hormis dans quelques villes finalement, en tout cas où ça subsiste et où ça ne, je veux dire, c'est pas créé, recréé en tout cas de façon artificielle. On arrive à des, dans des, j'ai l'impression que le modèle des sociétés anglo-saxonnes commence à prendre le pas et c'est un peu tout le monde chacun de son côté, quoi, en tout cas.
Est-ce que c'est une histoire qui, selon vous, est faite, cette histoire d'une mixité ou d'un vivre ensemble qui a été effectif, qui a fonctionné?
Pas suffisamment à mon sens, mais bien sûr. En tout cas, faut la faire revivre. Nous, c'est ce qu'on s'est efforcé de faire avec notre long métrage à venir qui s'appelle Les Derniers Parisiens. C'est comment dirais-je la photographie d'une France enfin d'un Paris pour le coup qui était traversé de toutes les influences, de tous les argots, si je peux dire, de toutes les races, toutes les religions, toutes les voilà, qui a juste pour seul point commun d'être plus du côté des pauvres que des riches et d'essayer de s'en sortir comme il peut. Voilà, avec les moyens dont il dispose, en s'écartant de toute forme de morale, naturellement. Sinon, faut pas faire du cinéma, faut faire autre chose.
C'est quand vous dites que vous avez essayé de le faire revivre, ça veut dire qu'il a disparu, ce monde-là ?
Non, en tout cas, nous, il existe en couteau dans notre imaginaire. En tout cas, il a suffisamment imprégné notre imaginaire quelque part pour le créer, en tout cas, spontanément. Mais après, oui, il existe plus trop non plus. Faut pas être aveugle.
Pour quelle raison il n'existe plus ?
Ah ben ça, les raisons, en tout cas, je me les pose encore aujourd'hui, quoi. Ça, je pense qu'il y a évidemment finalement peut-être des volontés politiques, peut-être qu'il y a quelque chose vraiment qui s'est cassé et qui est complètement irrécupérable. Il y a aussi la façon dont on a relayé un peu ces dernières années un discours qui s'écartait finalement des questions sociales et plus on a inventé plus des faits religieux plutôt que de parler des gens qui se lèvent le matin, qui chargent du taf ou pas. Bien pour celui quelque part qui monte sa petite tôle, qui se fait étrangler par les charges et qui essaye de sortir un peu de blague pour bouffer, enfin je veux dire la réalité du pop, quoi. Aujourd'hui on a transposé finalement une réalité qui était plus vendeuse, plus marketing, qui faisait appel à des espèces de grands constats un peu généraux et globaux et ça a brouillé un peu les pistes et ça a conduit peut-être à
ce qu'on insiste aujourd'hui.
Ouais, clairement, ouais.
Je suis l'ombre sur la mesure, le violent poison à l'écart de tout soupçon. Dans ce sombre récit dont personne se méfiera, il s'agira de sang sur les murs au crépuscule d'une bavure. Je murmurais la haine, enclavée dans les huppes en région parisienne. L'amour comme rempart à la dérive, au registre de ces âmes charitables plutôt naïves se perd. Donne à ma palabre son caractère, sourire kabyle dans les artères de ma ville. Voilà à quoi l'instinct de malfaiteur, ma foi, se familiarisera. Aux effusions sanguines d'une trop commune routine, la rue se massacre sous le ciel des damnés. N'importe quel trou du cul aujourd'hui est armé. Hier encore, l'ombre d'un regard de travers sur le pavé se dissipait dans un silence de mort. Le crime désormais à la parole trop facile, crois-moi, pour qu'on en rigole de joie sous ces lampadaires qui éclairent la misère. Et si j'exagère, l'obscurité la plus dense n'est jamais loin de la lumière la plus vive. Nourrit ces rumeurs de peur et de paranoïa, des heures tardives sous le tranchant de la lame d'un cran d'arrêt. À vos risques et périls, derrière les guirlandes d'acier d'une maison d'arrêt ou sur un disque vinyle. Considère-moi comme une pompe
dont tu as allumé la mèche
et qui égrène les secondes
d'une saison blanche et sèche.
Considère-moi comme une pompe
dont tu as allumé la mèche
et qui égrène les secondes
d'une saison blanche et sèche.
Considère-moi comme une pompe
dont tu as allumé la mèche
et qui égrène les secondes
d'une saison blanche et sèche.
considère-moi comme une pompe
dont tu as allumé la mèche
et qui égrène les secondes.
Je suis grand classique du rap français, L'ombre sur la mesure de la rumeur, le film dont parlait Ekoué à l'instant et co-réalisé avec Amé. Ce sera une sortie en salle au tout début de l'année prochaine. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous cet après-midi. Juliette Rennes, je rappelle la parution le 27 octobre. 27 septembre, c'est mon anniversaire. Prochain, encyclopédie critique du genre, corps, sexualité, rapports sociaux, 80 auteurs sous votre direction pour un livre qui s'annonce passionnant. Et puis on envoie vers le site de l'Apex. Mélène Servet, on peut trouver le projet, la présentation, des liens vers les associations, partenaires, etc. etc. Là oui, aussi, c'est passionnant. Les Nouvelles Vagues sont présentes sur les réseaux sociaux pour échanger avec vous tous. Ça nous fait plaisir de vous lire. Twitter, Facebook, mais aussi, bien sûr, franceculture.fr. On peut réécouter cette émission à vie. C'est une bonne nouvelle. On peut aussi s'abonner au podcast. Merci à Romain Debec de Lièvre, Inès Duperron, Alice Ramon qui pense et prépare cette émission avec moi et à Véronique Villa qui la réalise, Michael Simon à la suggestion musicale et aux manettes aujourd'hui, Jean-Frédéric